Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel et mon âme s'égaiera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Quand tu sondes ta misère, quand tu dis « Je suis perdu », regarde à Jésus, mon frère, et prends-le pour ton salut. On veut aujourd'hui considérer cela attentivement à la lumière de cette lecture biblique. Je me réjouirai en l'Éternel. Pourquoi ? Car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour Adam et Ève quand ceux-ci s'étaient séparés de Dieu? Nous lisons dans Genèse chapitre 3. Ils avaient l'opportunité de se garantir une éternité dans l'obéissance, mais Ève s'est laissée tromper par le serpent et Adam a préféré une vie de péché que de laisser partir sa bien-aimée avec un E à la fin. Genèse chapitre 3, on lit que après que Dieu soit venu dans le jardin et avoir parlé à Adam et avoir appelé Adam et Ève en leur demandant où est-ce qu'ils étaient, alors qu'ils savaient très bien, où est-ce qu'ils étaient, simplement ils voulaient leur exprimer, continuer de converser avec eux, simplement Adam et Ève se cachaient parmi les arbres du jardin d'Éden. Et après qu'il leur ait exprimé sa promesse qu'il enverrait Jésus-Christ dans la chair pour frapper sur la tête le serpent et que le serpent lui aussi blesserait le fils de la femme, c'est-à-dire Jésus, la postérité d'Abraham, il le blesserait au talon. Après avoir fait toute cette promesse du salut en Jésus-Christ, nous lisons au verset 21, Genèse 3, 21, « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Leur fit des robes de peau et les en revêtit. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est directement à la suite de la méditation que nous avions eue la semaine dernière, c'est continuer sur cette méditation, sur l'appel de Dieu à ce que nous nous revêtions de l'ornement d'un esprit doux et paisible. En nous rappelant que Jésus nous a présenté son propre exemple, il a dit « Moi, je suis doux et humble de cœur. » Et donc, c'est ce que nous avions patiemment examiné dans les précédentes études, où nous avons vu cette nécessité que nous ayons la douceur. Nous avons vu qu'il s'agit non pas simplement de la douceur telle que nous entendons le mot et nous le comprenons dans la société moderne d'aujourd'hui, mais la douceur telle qu'elle nous l'est présentée dans la parole de Dieu. Et la douceur telle qu'elle nous l'est telle qu'elle nous est présentée dans la parole de Dieu, est en réalité une humilité, comme vous l'avez vu. C'est une humilité, une débonnaireté, littéralement. Et nous lisions au sujet de Moïse qu'il était l'homme le plus doux qui existait sur la face de la terre en son temps. Il n'y avait pas un autre homme plus doux que lui, et cette douceur, elle se traduisait en ce que lorsque les gens l'accusaient, le condamnaient, le blâmait, l'attaquait, il répondait avec humilité en conservant sa relation avec l'Éternel Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque on le blâmait, lorsque on le condamnait, lorsque on lui jetait toutes sortes d'outrages, au lieu de répondre par la même, il se prosternait la face contre terre. Ça veut dire qu'il y a un esprit là qui agitait cet homme qui était complètement extraterrestre. Ça venait pas du tout de la terre, pas du tout de la chair, pas du tout de la volonté de l'homme, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, mais que ça venait directement de l'esprit et de la volonté de Dieu. Et donc ici nous lisons que Dieu a revêtu Adam et Ève de robes de peau. Parce que, de la même manière qu'on le lit dans Patriarches et Prophètes, l'esprit de prophétie nous dit que, avant d'être déchus, Adam et Ève étaient revêtus de robes de lumière. Aujourd'hui, dans le monde chrétien moderne, les gens lisent que Adam et Ève étaient nus et ne le savaient pas, et ils croient que, tout simplement, ils étaient nus, ils se baladaient tout nus, sans rien sur eux, mais ils ne le savaient pas. Bon, il ne faut pas être très, 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 très intelligent pour comprendre que c'est un non-sens, mais ce sur quoi j'aimerais qu'on se concentre, c'est le fait que Dieu ait pourvu à Adam et Ève un vêtement après qu'ils aient perdu cette robe de lumière qui les couvrait. Et nous sommes appelés à avoir un ornement doux et paisible. Doux et paisible. Et la profondeur de cet appel, c'est ce que nous voulons examiner aujourd'hui. Donc nous comprenons que nous avons besoin de nous revêtir d'humilité. Si nous voulons répondre correctement aux appels, aux injonctions et aux conseils de Dieu dans sa parole. Et dans cet effort de nous revêtir de l'ornement d'un esprit doux et paisible, il y a une autre dimension de révélation qui s'offre à notre esprit. Et pour cela, j'aimerais qu'on se tourne vers Ésaïe chapitre 64, verset 6. J'ai fait allusion dans notre petite introduction ici à certains éléments sur lesquels j'espère et j'aimerais qu'on se penche davantage plus tard, mais avant de pouvoir les aborder, avant de pouvoir même toucher à ce sujet du vêtement, des habits, il y a un sujet extrêmement important que l'on veut considérer et qui est à la racine de tous les autres sujets qu'on pourrait vouloir examiner dans la parole de Dieu. Donc Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Et ici, nous lisons. Tous nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Donc toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. Mais pour en arriver là, pour en arriver à cette révélation, à cette réalisation, cela nécessite une considération répétée de la parole de Dieu. Mais quand on fait cette considération, quand on s'adonne à une méditation vraiment attentive et sincère de ce que Dieu nous dit, on trouve quelque chose qui nous fait exprimer du fin fond de notre cœur et de notre corps ce qui était écrit ici dans ce passage. Je suis comme une chose impure, comme c'est écrit dans la Bible d'Arbi. Nous sommes devenus comme une chose impure et toutes nos justices comme un vêtement souillé. Mais justice, ma justice, on veut le voir ici dans Vers Jésus à la page 44 et au paragraphe 1, où elle dit, l'esprit de prophétie dit, il se peut que comme Nicodème, nous nous soyons bercés de l'illusion que notre vie a été régulière, que notre moralité est convenable, et nous en concluons que nous n'avons pas besoin d'humilier nos cœurs devant Dieu comme de vulgaires pécheurs. Mais quand la lumière de Christ brillera dans notre âme, nous verrons combien nous sommes impurs. Nous discernerons l'égoïsme de nos mobiles et l'inimitié contre Dieu qui a souillé tous les actes de notre vie. Nous nous rendrons compte que notre justice est véritablement comme un vêtement souillé et que seul le sang de Christ peut nous purifier de la souillure du péché et transformer nos cœurs à sa ressemblance. Donc, quand est-ce qu'on verra cela? Parce que, comme c'est écrit au début, il se peut que nous nous soyons bercés de l'illusion que notre vie a été régulière. Et donc, cette illusion, elle continue et elle se poursuit jusqu'à ce que la lumière de Christ brille dans notre âme. Donc, ce que ça provoque, cette lumière de Christ, c'est que ça crée une réalisation à l'intérieur de nous de quelque chose qu'on n'avait pas réalisé auparavant. Et ce quelque chose, ce sont les ténèbres de nos justices qui sont comme un vêtement souillé. Et c'est comme une baie vitrée. Si le temps est nuageux, il n'y a pas vraiment de lumière qui vient traverser la vitre. Et donc, on a peut-être l'impression que la vitre, elle est plutôt propre. Mais dès que la lumière du soleil, elle vient pénétrer par ses rayons, ce verre que nous croyions propre avant, on réalise que ce verre est vraiment, mais sale. Sale, sale, sale. Il faut que je le nettoie, ce verre, comme tellement qu'il est sale. Alors qu'avant, quand le temps était nuageux, il n'y avait pas trop de lumière qui venait percer à l'intérieur, ça avait l'air plutôt correct, plutôt régulier, plutôt convenable. Il se peut que, comme Nicodème, nous nous soyons bercés de l'illusion que notre vie a été régulière, que notre moralité est convenable. Mais quand la lumière de Christ, elle brille dans mon âme, je vois combien je suis impur. Et je vois que, en fait, j'ai bel et bien besoin d'humilier mon cœur devant Dieu comme le plus vulgaire des pécheurs. Et comme l'apôtre Paul a dit, je suis le chef des pécheurs. Le chef, l'apôtre Paul. Est-ce que vous réalisez le genre de réalisation qui se poursuit dans l'âme pour en arriver à exprimer de telles choses? Il n'était pas en train de dire ça simplement parce que c'était correct et qu'il fallait le dire en tant que chrétien. Il disait cela parce que c'était ce qu'il ressentait au plus profond de lui. Il dit, moi, des pécheurs dont je suis le chef. Le chef. Il disait que moi qui ne suis même pas digne d'être appelé un apôtre. À ce point, réaliser, il n'est pas en train de faire du légalisme, il n'est pas en train de faire du formalisme, il n'est pas en train de simplement dire cela pour plaire à ses propres amis chrétiens, ses apôtres dans le ministère, ses frères et sœurs qui le regardent comme une personne élevée, donc il veut les satisfaire. Non, 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 rien de tout cela. Il est en train de dire, je suis le pire de tous les apôtres, vous ne devrez même pas pouvoir m'appeler un apôtre, mais le Seigneur, il m'a élu comme apôtre pour les gentils. Donc, je suis son apôtre. Et je tiens un ministère dont Dieu m'a donné la charge. Vous voyez d'activité qui se passe à l'intérieur du cœur. Et donc quand la lumière de Christ brillera dans nos âmes, je continue, nous discernerons l'égoïsme de nos mobiles et l'inimitié contre Dieu qui a souillé tous les actes de notre vie. Nous nous rendrons compte que notre justice est véritablement comme un vêtement souillé. Et il y a une autre citation qui se trouve dans le commentaire biblique à la page 1473 et jusqu'à la page 1474. Je lis ceci. Le plan de Christ est le seul qui soit sûr. Il déclare, voici je fais toutes choses nouvelles. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Elle poursuit, Christ n'encourage pas l'homme à penser qu'il acceptera un caractère rapiécé, constitué principalement du moi, avec un peu de Christ. Telle est la condition de l'Église laodicéenne. Au début, il semble y avoir un peu du moi et un peu de Christ, mais très vite, il n'y a plus que du moi et plus du tout de Christ. La racine de l'égoïsme se révèle. Elle continue de croître, enfonçant ses racines toujours plus profondément jusqu'à ce que ses branches soient couvertes de fruits indésirables. Christ considère avec une tendresse pleine de compassion tous ceux qui ont un caractère hybride. Ceux qui possèdent un tel caractère ont une relation avec Christ si fragile qu'elle ne vaut absolument rien. Vous réalisez? Vous voyez la lumière? C'est ça? C'est de ça dont il s'agit, parce que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus, et donc la lumière de Christ est en train de briller dans notre âme. Et qu'est-ce que ça fait? Nous discernons l'égoïsme de nos cœurs. La racine de l'égoïsme se révèle. Mais qu'est-ce que nous avons lu? Comment est-ce que Jésus, il considère ceux qui ont une telle condition laodicéenne, ceux qui ont un caractère rapiécé. Vous savez, quand on met une pièce par-dessus une autre pour combler un trou dans un vêtement. C'est ça et ici d'ailleurs, le titre dans le commentaire biblique, dans le livre, c'est écrit une religion de rapiéçage. Et donc, nous lisons, Christ n'encourage pas l'homme à penser qu'il acceptera un caractère rapiécé. Vous vous souvenez de comment ils s'étaient revêtus, Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, avant que Dieu les couvre de robes de peau, et ils s'étaient cousus des vêtements à partir de feuilles de figuier. Est-ce que c'était un caractère rapiécé, ça? C'est vraiment l'ultime caractère de rapiéçage. Ils se sont cousus des petits fragments ici et là pour essayer de couvrir le plus important. Vous voyez? Est-ce que nous voyons cela aujourd'hui? Mais attention, parce que l'important c'est d'aller à la racine de ces choses-là. Pas simplement de toucher à la forme extérieure. Non, non, non. Absolument pas. Ce dont ils s'étaient revêtus, Adam et Ève, dans le jardin, après avoir succombé à la tentation, c'était des vêtements rapiécés. Rapiécés, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Pour le moment. Mais c'est pas simplement qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose qui les couvre entièrement, c'est que le péché est une attitude, est une entité de rapiéçage. De rapiéçage où nous faisons un peu de bien et un peu de mal. Vous vous souvenez ce que Satan il a dit à Ève? Si tu manges du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme des dieux, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il ne lui a pas promis de connaître que le mal. Il lui a dit, tu connaîtras le bien et le mal. Un peu de tout. Tu fais du rapiéçage. Moi, je t'offre une religion de rapiéçage. Et aujourd'hui, que font les hommes? Du rapiéçage? Comment est-ce que les hommes et les femmes s'habillent? Du rapiéçage? Un vêtement un peu par-ci, un peu par-là, qui couvre un peu une partie de l'homme et pas vraiment l'autre? Comment est-ce que c'est? Au début, il semble y avoir... Non, je lis un peu plus haut. Christ n'encourage pas l'homme à penser qu'il acceptera un caractère rapiécé, constitué principalement du moi, avec un peu de Christ. Telle est la condition de l'Église laodicéenne. Principalement du moi, avec un peu de Christ. Est-ce que vous avez vu les shorts aujourd'hui que portent les femmes? Principalement du moi et un peu de Christ. C'est juste un exemple. Mais dans la sphère spirituelle, on a beau se revêtir de tout ce que nous croyons nécessaire, c'est toujours possible d'avoir un caractère rapiécé constitué principalement du moi avec un peu de Christ. Mais comment est-ce que Jésus, il regarde ce genre de personne que nous sommes avec un caractère hybride, un peu de Christ et beaucoup de moi? Christ considère avec une tendresse pleine de compassion tous ceux qui ont un caractère hybride. Il a une tendresse. Pour moi, si j'ai un caractère hybride, un peu de lui, un peu de moi, il a de la compassion pour cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce que je peux m'en saisir? Vous voyez, je me souviens d'un pasteur de l'église adventiste que j'avais regardé ce qu'il disait, et il disait, On est dur dans l'église. Qu'est-ce qu'on est dur? Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Dur. Dur de cœur. Dur de cœur. Dur et réticent à permettre au Seigneur de percer le cœur par ses flèches. L'esprit de prophétie nous donne une description du pharisien qui avait une carapace autour de son cœur pour protéger son cœur des attaques des anges de Dieu. Et il a dit, la comparaison est faite entre le pharisien et le pharisien d'aujourd'hui. Le pharisien d'antan et le pharisien d'aujourd'hui. Que nous aussi, en endurcissant nos cœurs, nous nous comportons comme ces pharisiens-là, dont le cœur était si dur qu'ils étaient intouchables face au trait de l'Esprit de Dieu, de la conviction et des avertissements de Dieu. Je continue. La même citation. La religion du rapiéçage n'a aucune valeur devant Dieu. Il réclame le cœur tout entier. On ne doit réserver aucune partie de celui-ci à la croissance de tendances héréditaires ou cultivées au mal. Être dur, être sévère, se donner trop d'importance, être égoïste, veiller à ses propres intérêts égoïstes, et cependant exiger des autres qu'ils soient désintéressés, c'est là une religion qui est en abomination à Dieu. Beaucoup en effet mènent une telle vie au quotidien, mais c'est une fausse représentation du caractère de Christ. Donc on est encore sur la partie de la lumière de Christ qui perce dans nos âmes et qui nous révèle, comme on l'a lu au début, qui nous révèle l'égoïsme de nos mobiles et l'inimitié contre Dieu qui a souillé tous les actes de notre vie. Et nous nous rendons compte que notre justice est bel et bien un vêtement souillé. Au début, elle paraît acceptable, appropriée, convenable, régulière. Mais ensuite, lorsque sa justice, telle qu'elle est manifestée dans sa vie et dans sa parole, et dans ses statuts et ses ordonnances, quand sa justice perce dans nos âmes pour illuminer les fonds et combles de nos cœurs. Là, nous réalisons ce que le prophète Ésaïe a dit, que bel et bien nos justices sont comme un vêtement souillé. Et qu'est-ce que vous faites d'un vêtement souillé? Qu'est-ce que vous faites d'un vêtement souillé? C'est intéressant parce que dans l'anglais, c'est « filthy rags ». Et le mot rags, ça fait directement référence à des torchons. Des torchons souillés. C'est-à-dire que ça devrait même pas être des vêtements. C'est comme ces feuilles de figuier que Adam et Ève s'étaient cousues pour vêtements. C'est-à-dire qu'ils sont non pas simplement souillés, mais ils sont déchirés. Ils sont bons à jeter. Mais ça, on ne peut le réaliser que quand la lumière de Jésus brille dans nos cœurs et dans nos âmes. Et il y en a un qui a fait une telle expérience de ce que nous sommes en train de poursuivre, pour la faire nous aussi. Et son expérience et la leçon qui est contenue se trouve dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait six ailes. De deux, ils couvraient leur face, de deux, ils couvraient leurs pieds, et de deux, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et là, il s'agit de voir au-delà de simplement lire intellectuellement, parce que il y a quelque chose, il y a une expérience qui est contenue dans ces paroles. Ici, Ésaïe se voit accorder une vision de Dieu dans son temple. Il voit plus ou moins ce qu'il peut voir sans mourir de Dieu sur son trône, et il voit les séraphins qui crient, qui s'exclament à la vue du caractère de Dieu, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et après qu'il ait vu cela, il se dit, non, moi c'est bon, je suis perdu, perdu. Vous voyez le genre d'exclamation intérieure qui se fait un chemin à travers le cœur et la bouche d'Ésaïe lorsqu'il écrit cela. J'aimerais lire une autre citation de l'Esprit de prophétie dans « Vers Jésus » à la page 44 et au paragraphe 2. « Un rayon de la gloire de Dieu, une lueur de la pureté de Christ pénétrant notre âme, en fait douloureusement et nettement ressortir chaque tâche. Il met en évidence la difformité et les défauts du caractère humain, les désirs non sanctifiés, l'infidélité du cœur, l'impureté des lèvres, les actions déloyales du pécheur par lesquelles il a outragé la loi de Dieu éclatent à ses yeux, son esprit est humilié et affligé sous l'influence scrutatrice de l'Esprit de Dieu. Il se prend en dégoût à la vue du caractère pur et immaculé de Christ. » C'est ça l'expérience d'Ésaïe ici. Il voit toutes ces choses. Nous, on lit juste « Malheur à moi, je suis perdu », mais il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de choses qui se passent à l'intérieur de son esprit. Il est en train de se dire « Moi, je vis à côté de ces pères-là, et je me souviens de ce que j'ai dit là. Oh non, pourquoi j'ai dit ça là? Et pourquoi j'ai fait ça? Et mais je suis tellement pas comme lui. Oh, je suis perdu. » C'est ça. C'est ça l'activité qui se passe dans le cœur de l'homme qui voit comme ça la gloire de Dieu. Et Esaïe, lui, il a eu cette vision parce qu'il était prophète de l'Éternel. Et donc, l'Éternel lui a accordé cette vision pour son ministère. Mais nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Dieu tel qu'il nous est révélé dans toute sa pureté, sa clarté, sa sainteté, sa perfection dans sa parole. Et si nous regardons bien attentivement à la lumière de qui nous sommes et que nous ressentons l'influence scrutatrice de l'Esprit de Dieu, cela va provoquer les mêmes réactions intérieures à l'intérieur de nous, par lesquelles nous allons nous prendre en dégoût à la vue du caractère pur et immaculé de Christ. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, des armées. C'est ça qu'il disait, comme Manoah avec sa femme. Manoah, il a dit à sa femme, allez, c'est bon, c'est terminé pour nous. On a vu Dieu, on va mourir. Il disait pas simplement cela pour faire du formalisme. Il le croyait. Il ne comprenait pas vraiment bien le caractère compatissant de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais toutefois, il avait raison dans le sens que sa réalisation de son impureté, de son indignité, était disproportionnée face à la sainteté et la perfection de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Un rayon de la gloire de Dieu, une lueur de la pureté de Christ pénétrant notre âme, en fait douloureusement et nettement ressortir chaque tâche. C'est tout. L'Esprit, il vient simplement soulever chaque point et il n'y a pas beaucoup besoin d'activité. C'est une activité naturelle de cause à effet. Si vous laissez la lumière du soleil traverser une vitre qui est sale, vous allez voir que la vitre est sale. C'est tout. Et Dieu, quand il fait pénétrer sa lumière dans nos cœurs ténébreux et impurs, cela fait douloureusement et nettement ressortir chaque tâche à notre intelligence. Et oui, il y a aussi l'influence scrutatrice de l'Esprit de Dieu qui rend tout cela possible et qui rend plus aigu le sentiment de notre indignité. Pas pour nous condamner au désespoir, mais parce que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, nous mène à la repentance. Ça fait partie de sa bonté. C'est important qu'on se souvienne, parce que on veut être revêtu de l'ornement d'un esprit doux et paisible qui ne dira pas « Non Seigneur, je ne veux pas ça, arrête de me parler, stop, maintenant tu me fais une pause et moi je veux penser à autre chose. » Mais que, avec cet esprit doux et paisible, nous nous revêtirons de cet esprit doux et paisible et nous nous souviendrons de ce que cela implique. Quel est le genre d'activité qui sera contenu lorsque moi je veux me revêtir d'humilité, de douceur, tel que Dieu me le demande, pour pouvoir réagir correctement à sa parole, à ses conversations avec moi à travers la parole. Et ensuite, lorsqu'il a dit cela, nous lisons au verset 6, toujours de Ésaïe chapitre 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Maintenant, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. J'aimerais lire le commentaire biblique à la page 637. Il est écrit, ainsi lorsqu'il est permis aux serviteurs de Dieu de contempler la gloire du Dieu du ciel, tel qu'il se révèle à l'humanité, et que l'homme comprend ne serait-ce qu'une infime partie de la pureté du Saint d'Israël, lui aussi fera d'alarmantes confessions de la contamination de son âme, plutôt que de se vanter avec arrogance de sa propre sainteté. Ésaïe s'exclama avec une profonde humilité, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Quand l'humanité, avec ses faiblesses et ses difformités, fut mise en contraste avec la perfection de la sainteté, de la lumière et de la gloire divine, il se sentit complètement inapte et indigne. Comment pourrait-il aller présenter au peuple les saintes exigences de Jéhovah qui est si haut et si élevé et dont les pans de la robe remplissent le temple? Pendant qu'Ésaïe tremblait et que sa conscience l'accusait à cause de son impureté, en présence de cette gloire insurpassable, il dit que l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit « Maintenant, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. » Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Et qui ira pour nous ?» Et je dis « Me voici, envoie-moi. » Et pourquoi est-ce qu'il pouvait dire ça ? Pourquoi est-ce qu'il pouvait dire, alors qu'il disait au début « Mes lèvres sont impures, je suis perdu » et qu'il dit maintenant « Me voici, envoie-moi » qu'est-ce qui a fait, qui a produit ce changement profond dans son attitude face à cette révélation de la sainteté haute et élevée de Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que le Seigneur lui a dit tu ressens que tes lèvres sont impures, tu confesses tout cela, tu te sens contrit dans ton cœur, tu es repentant, tu viens à moi dans le sentiment de ton indignité. Maintenant, voici, ceci a touché tes lèvres, le charbon ardent, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. Et donc ils se disaient, oh non, what? Oh, tu m'aimes comme ça pour laver mon péché? Oh. Et après le Seigneur a dit, qui ira pour moi? Oh oui, oh me voici Seigneur, envoie-moi pour toi Seigneur, pour déclarer cet amour. Oh. C'est ça le message dont il était le messager et dont Dieu veut faire chacun de nous le messager. Le message de l'évangile. La bonne nouvelle. Comme on l'avait lu, Christ considère avec une tendresse pleine de compassion ceux qui ont un caractère hybride. Dieu regarde cela avec compassion. C'est ça que Dieu veut toucher, c'est avec cela que le Seigneur veut toucher nos cœurs. pour qu'on puisse aussi être utilisé de lui pour communiquer son amour aux autres. Et donc, là, ça soulève l'aspect qui est le centre de notre méditation aujourd'hui, à savoir ce qui est présenté dans la vision de Zacharie. Zacharie, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, ou Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu ? Or, Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revais d'habits magnifiques. Et je dis qu'on lui mette sur la tête une tiare pure. » Et ils lui mirent sur la tête une tiare pure et le revêtirent des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Vous voyez le même genre de activité de révélation et de purification. Esaïe, il s'est exprimé, je suis perdu, parce qu'il avait vu que ses justices étaient un vêtement souillé. Et ici, dans la parabole prophétique de Zacharie, Josué ou Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et Satan était là à accuser Josué parce qu'il avait ses vêtements sales. Il disait à Dieu, regarde-le un peu, mais lâche-le, arrête de le protéger et que je le détruise, moi. Mais non, non, parce que Dieu, il dit, l'Éternel te réprime, Satan. L'Éternel qui a choisi Jérusalem te réprime. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu ? Comment est-ce qu'il peut être retiré du feu ? C'est parce que il est repentant, il a le cœur contrit et donc Dieu il dit « Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu l'accuses mais que lui il se repent, ça n'a aucune importance ce que tu dis. » Parce que moi, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? L'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Josué, vois, regarde un peu ça, ce que je fais pour toi, parce que regarde un peu l'activité que je fais là. Il y a quelque chose là. Vois, j'enlève ton iniquité et je te revais d'habits magnifiques. Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61, notre lecture biblique, verset 10. Qu'est-ce qu'il fait, Josué ? Qu'est-ce que le pécheur repentant, il fait quand il a ce genre d'activité accomplie pour lui, où Dieu même s'exprime personnellement, il dit, vois, regarde, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. J'enlève ton iniquité et je te revais d'habits magnifiques. Qu'est-ce que c'est après l'expression du cœur, l'expression même biblique et doctrinale et révélatrice du cœur qui s'en va réjoui par ce que Dieu vient de faire. Ésaïe 61:10, je me réjouirai en l'Éternel et mon âme s'égaiera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice. Comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je me réjouis en lui? Pourquoi est-ce que Ésaïe disait « Envoie-moi maintenant, Seigneur, envoie-moi, s'il te plaît, pour que je te serve, que je marche avec toi, que je fasse quelque chose pour toi, que je communie avec toi pour ce que tu as fait pour moi, en ce que tu as ôté mon iniquité. Je me réjouis en l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il m'a revêtu du vêtement du salut et m'a couvert, quoi? Du manteau de la justice. Du manteau de la justice. Et après que Adam et Ève, ils aient commis ce péché et se soient séparés de Dieu, Dieu les a couverts, leur a fait des robes de peau. Il les a justifiés aussi. Il les a justifiés et il leur a donné un habit pour manifester cette justification possible grâce à son amour. Grâce à son amour. Parce que c'est écrit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les pécheurs, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quiconque soit contrit, quiconque soit repentant, quiconque ressente sa misère, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il puisse être justifié et glorifié et sauvé éternellement. Et donc c'est cela, l'expérience, notre expérience, si nous suivons fidèlement chaque étape de ce processus vers la justification. Et il y avait une citation que j'aurais voulu partager, elle se trouve, mais je ne vais pas la lire, je vous donne la référence, c'est dans Parabole de Jésus, à la page 173, au paragraphe 1 à 3. Mais pour conclure, j'aimerais qu'on se tourne vers Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 24. Ici, après avoir énuméré des choses que les hommes du monde qui vivent selon la chair font, l'apôtre dit cela. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, si vous l'avez écouté, et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruit en lui. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Donc ça, c'est l'expérience dans laquelle nous poursuivons l'activité de la sanctification. C'est-à-dire qu'après que nous soyons touchés par l'amour de Dieu par lequel il consent à nous pardonner, à ôter notre iniquité et à expier notre péché, après que nous soyons touchés comme cela dans nos cœurs, à l'intérieur de nos entrailles par ce Dieu compatissant et ce Sauveur miséricordieux, nous apprenons de Jésus à nous dépouiller pour ce qui est de notre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de notre entendement et à nous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Et c'est de ce manteau de la justice dont il est question, de ces vêtements du salut que nous avions lu juste auparavant. C'est cette activité-là qui va nous préparer à être, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14, sans faute devant le trône de Dieu. Donc, lorsque nous avions parlé, examiné cet appel à porter l'ornement d'un esprit doux et paisible, c'est inséparable avec cette activité par laquelle Dieu ôte nos vêtements sales et nous revêt d'habits magnifiques, à savoir des vêtements du salut et du manteau de la justice. Puisse le Seigneur cimenter ses pensées de notre intelligence pour qu'elles puissent directement s'introduire dans notre expérience personnelle et intime et pratique, pour que lorsqu'on en aura besoin le plus, le Seigneur puisse le rappeler à nos esprits et que l'on puisse s'en saisir en pratiquant la douceur et en nous dépouillant de l'homme, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises et en nous revêtant du nouvel homme par l'humilité et en faisant la volonté que Dieu nous a spécifiée dans sa parole telle que nous l'avons vue aujourd'hui. C'est ma prière que l'on puisse faire cela et être diligent et attentionné dans notre relation avec notre Père et Jésus qui nous a été donné. C'est ma prière. Amen.